الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous avons donc mentionné dans le dernier cours la construction du masjid Quba ainsi que le masjid al-Nabawi, c'est-à-dire la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit que là, le masjid Quba se trouve au sud de la mosquée prophétique. Et la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est construire une mosquée, avant même de construire ses appartements et ses logements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par la construction d'une mosquée. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit le masjid al-Nabawi, qui est connu, c'est-à-dire la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite vint la construction de ses logements. L'auteur dit, puis autour d'elle, il construisit ses logements, puis vinrent ensuite ses années durant. Moins de la moitié de ceux qui voyagèrent dans les terres des Abyssins, où ils immigrèrent. Après avoir construit la mosquée Quba et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit autour du masjid Nabawi ses logements. Mais il n'a pas construit tous ses logements d'un coup comme l'ont mentionné les ulama. Il a d'abord commencé par le logement de Saouda, qui était sa première femme après la mort de Khadija radiallahu anha, comme nous avons vu. Et ensuite, il a construit le logement de Aïcha et ainsi de suite. Comme l'a dit Al-Dhahabi, il me semble qu'il les construisait à des moments différents, c'est-à-dire pas tous en même temps. Et il faut savoir que les logements du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient très modestes. Et c'était des petits logements, sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela a été rapporté dans un hadith authentique, un compagnon dit « J'ai vu les appartements qui étaient faits en palme et couverts à l'extérieur de poils lissés. Et je pense que la largeur de la maison, de la porte, de l'appartement jusqu'à la porte de la maison était d'environ 6 ou 7 coudées. La largeur intérieure de la maison était de 10 coudées. Et je pense que sa hauteur était entre 7 et 8 coudées. » Donc vous voyez, subhanallah, que l'appartement ou la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam était très petite et très modeste, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, durant la même année, moins de la moitié des émigrés, c'est-à-dire ceux qui avaient émigré en Abyssinie, sont revenus, sachant qu'au départ, ils étaient donc 83 hommes et 18 femmes, comme nous avons mentionné précédemment. Donc, durant la deuxième hijra, la deuxième immigration en Abyssinie, ils étaient au nombre de 83 hommes et 18 femmes. Et lorsque les musulmans ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était revenu à Médine, moins de la moitié sont revenus. Ils disent donc 33 hommes et 8 femmes. 33 hommes et 8 femmes. Ce sont donc la moitié, moins de la moitié de ceux qui étaient partis durant la deuxième immigration en Abyssinie. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fraternisa entre les muhajirines et les ansar. Donc c'est ce qui s'est produit après cela. L'auteur dit, et durant elle, il fraternisa, c'est-à-dire la première année de l'égire. Il fraternisa le plus noble des meilleurs entre les émigrés et les auxiliaires, c'est-à-dire les muhajirines et les ansar. Durant la première année de l'égire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fraternisé entre les muhajirines et les ansar afin de les consoler et qu'ils ne ressentent plus de solitude, car ils s'étaient séparés de leur famille et autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors décidé de fraterniser entre eux. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans Zad al-Ma'ad, puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fraternisé entre les muhajirines et les ansar dans la maison de Anas ibn Malik. Et ils étaient 90 hommes. Ils étaient donc au nombre de 90. 90 pour les Français qui nous écoutent. La moitié d'entre eux faisait partie des Muhajirines et l'autre moitié des Ansar. Il a fraternisé entre eux pour les consoler et ils héritaient les uns les autres après la mort, au lieu de leurs parents. Et ce jusqu'à la bataille de Badr. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala révéla le verset « Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah » Cependant, ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres. Donc, subhanallah, jusqu'à la bataille de Badr, yani les muhajirines yani, et les ansar héritaient donc les uns les autres. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset-là. Et il faut savoir que les ansar ont fait preuve d'un immense exemple en faisant passer les autres avant leur propre personne. Et subhanallah, vous ne verrez pas à cette époque des gens qui ont fait ce que les Ansar ont fait à cette époque-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a loués pour cela, pour cette générosité et pour avoir fait passer autrui, c'est-à-dire les autres, avant leur propre personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, c'est-à-dire appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu et qui les préfèrent à eux-mêmes. Même s'il y a pénurie chez eux, quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Ceci au point que les Ansar donnaient la moitié de leurs biens à leurs frères parmi les Muhajirines. C'est-à-dire qu'ils donnaient la moitié de leurs biens. Il a même été rapporté que certains divorçaient une de leurs femmes pour la donner et pour la marier aux Muhajirines. Et concernant ce sujet, on trouve ce qui a été rapporté dans Sahih al-Bukhari lorsque Abdurrahman ibn Auf arriva à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fraternisa entre lui et Sa'd ibn al-Rabi' al-Ansari, qui lui proposa de partager avec lui sa famille et ses biens. Abdurrahman lui dit alors « Qu'Allah bénisse ta famille et tes biens. Montre-moi où se trouve le marché. » Il eut des bénéfices, donc il a eu des bénéfices d'un commerce qu'il avait fait de yaourt séché et de beurre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu quelques jours après et il avait sur lui une trace jaunâtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Qu'est-ce que cela, ô Abdurrahman ?» Il dit « Ô messager d'Allah, j'ai épousé une femme parmi les Ansar. » Il dit « Qu'as-tu donné pour elle ?» Il répondit « Le poids d'un noyau en or. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Donne un repas de noces, ne serait-ce qu'avec une brebis. » Ensuite, il y a eu la consommation du mariage avec Aïcha radiallahu anha. L'auteur dit, « Puis le mariage avec la fille du meilleur de ses compagnons fut consommé. » Donc c'est la consommation du mariage avec la fille de Abi Bakr al-Siddiq, c'est-à-dire Aïcha radiallahu anha. Il dit « Puis le mariage avec la fille du meilleur de ses compagnons fut consommé et l'appel, c'est-à-dire à la prière, prends-le donc comme modèle, fut légiféré. » L'auteur du livre est d'avis que le mariage avec Aïcha radiallahu anha fut consommé lors de la première année de l'Hégire. Et certains ont dit parmi les savants qu'il fut consommé la deuxième année de l'Hégire. C'est-à-dire qu'il y a une divergence entre les savants. Ensuite, durant cette année-ci, c'est-à-dire la première année de l'Hégire, l'appel à la prière fut légiféré. Et avant que l'appel à la prière ne soit légiféré, les gens essayaient de rechercher l'heure, c'est-à-dire l'heure de la prière, et lorsqu'ils sentaient que l'heure approchait, ils se rendaient à la mosquée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'appel à la prière comme on l'entend maintenant. Comme cela a été rapporté dans un hadith authentique, dans les deux recueils, lorsque les musulmans sont arrivés à Médine, ils se regroupaient pour la prière, essayant de rechercher son heure. On ne faisait pas d'appel à la prière pour celle-ci. Ils ont parlé de cela un jour et certains ont dit « Prenez une cloche comme la cloche des chrétiens ». Et d'autres ont dit « Prenez une trompe comme la trompe des juifs », c'est-à-dire pour appeler à la prière. Et Omar, radiallahu anhu, dit « Pourquoi nous n'envoyons pas un homme appelé à la prière ?» Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « Bilal, lève-toi et appelle à la prière ». Mais il faut savoir que l'appel à la prière mentionné dans ce hadith, ce n'est pas l'appel à la prière qu'on entend de nos jours. Ce n'est pas cet appel à la prière-ci. L'appel mentionné dans ce hadith, donc c'est plutôt un appel qui indiquait donc que la prière en groupe allait avoir lieu. C'est-à-dire que le compagnon, par exemple, disait la prière en groupe, pour prévenir que l'heure allait rentrer. Comme cela a été rapporté dans At-Tabaqat de Ibn Sa'd, que Urwa ibn Zubayr, wa Zayd ibn Aslam, wa Sa'id ibn al-Musayyib ont dit « À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que l'appel à la prière ne soit légiféré, celui qui appelait pour le prophète appelait en disant « La prière en groupe, la prière en groupe » et les gens se réunissaient. » Donc c'est pas la même prière, appel à la prière qu'on entend de nos jours. Ensuite, Abdullah ibn Zayd, il a été rapporté donc qu'il a vu un rêve. Et un homme lui dit dans ce rêve, l'appel à la prière, c'est-à-dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa, jusqu'à la fin. Il alla chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui mentionna ce rêve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il s'agit d'un rêve véridique. Si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, va avec Bilal et apprends-lui l'appel à la prière et qu'il appelle avec cela, car il a une plus belle voix que toi. Donc c'est à ce moment-là que l'appel à la prière fut légiféré. C'est-à-dire dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd. Et c'est de cette manière-là que le Eden fut légiféré. C'est-à-dire avec le rêve d'Abdullah ibn Zayd. Maintenant, nous allons mentionner les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh Abdelrazzaq, tient à mentionner ici l'importance des expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, rapporte dans son ouvrage Al-Jami' li-Akhlaq al-Rawi, d'après l'imam al-Zuhri, Rahimahullah, qu'il dit mon père nous enseignait les expéditions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et nous les dénombrait et nous disait ô mes fils, voilà les traces de vos ancêtres, ne les oubliez pas. Et il a rapporté également d'après Zayn al-Abidin Ali ibn al-Hussein ibn Ali qu'il dit on enseignait les expéditions où nous enseignait les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on nous enseignait une sourate du Coran. Pour vous montrer ici l'importance de connaître les expéditions et les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient nombreuses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à certaines de ces expéditions, tout comme il a envoyé des unités pour combattre ou autres dans lesquelles il n'a pas participé, ce qu'on appelle As-Saraya. À combien d'expéditions le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé? Il a été rapporté dans le recueil d'Al-Bukhari et Muslim, d'après Abi Ishaq As-Sabi'i, qu'il questionna Zayd ibn Arqam à ce sujet. Il dit « À combien d'expéditions a participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Il dit « 19 ». Je dis « À combien d'expéditions as-tu participé ?» Il répondit 17. Mais les savants ont divergé quant au nombre d'expéditions auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam participa. Certains ont dit 21 et certains ont dit 27. Quant aux saraya, c'est-à-dire aux unités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait et dans lesquelles il ne participait pas, Ibn Ishaq en a dénombré dans son livre 36. Et Al-Waqidi 48. Ibn al-Jawzi 56. Al-Mas'udi 60. Et d'autres en ont mentionné plus de 70. Et certains en ont mentionné plus de 100. Néanmoins, les savants ont dit que celui qui en a rapporté plus de 100, il a regroupé entre les batailles et les expéditions dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé, et entre donc as-saraya, c'est-à-dire les unités qu'il a envoyées. L'auteur dit ensuite, et la bataille de Al-Abwa. Ensuite, en Safar, ceci, et dans la seconde, les expéditions connues furent. La première expédition qu'on va mentionner, c'est donc l'expédition de Al-Abwa, qui eut lieu au mois de Safar, durant la deuxième année de l'Hégire. Donc maintenant, on est à la deuxième année de l'Hégire. On a mentionné ce qui s'est passé à la première année de l'Hégire, maintenant on est à la deuxième année de l'Hégire. On l'appelle également, c'est-à-dire cette bataille-là et cette expédition, on l'appelle également Waddan. Et ce sont deux endroits qui sont proches l'un de l'autre. Al-Abwa, c'est un village qui se situe entre Médine et Mekka. Il se situe environ à 170 km de Médine. Et durant cette expédition, il n'y a pas eu de combat. Et il n'y a pas eu de bataille. Mais il y a eu un pacte entre donc le Beni Damra, Abd Manat, Ibn Abd Manat, Ibn Kinana, avec leur chef qui s'appelait Majdi Ibn Amr. Donc c'est ce qui s'est passé donc durant cette expédition. C'est qu'il y a eu un pacte entre Beni Damra, Ibn Abd Manat, Ibn Kinana et leur chef Majdi Ibn Amr. Après cette expédition-ci, il y a eu donc l'expédition qu'on appelait Bouat. Et l'auteur dit à Bouat, puis à Badr, puis fut obligatoire le changement de la Qibla à Mirajab. Durant le mois de Rabi' al-Akhir, il y a eu l'expédition de Bouat. Donc cela s'est produit durant le mois de Rabi' al-Akhir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait intercepter un convoi ou une caravane commerciale qui appartenait aux kuffars de Quraysh. Jusqu'à ce qu'ils ont atteint un endroit qui s'appelle Bouat, qui est proche de Radwa, qui se situe à Yanbu'. Yanbu', si quelqu'un était à Médine, c'est la ville donc côtière dans laquelle il y a la mer. Et donc c'est une ville près de la mer qui est située à 220 km de Médine. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra à Médine sans rencontrer donc aucune opposition. Et il passa ensuite le reste du mois de Rabi' al-Akhir et une partie du mois de Jumad al-Oula à Médine. Donc c'est ce qui s'est produit à ce moment-là à Bouat. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait intercepter une caravane commerciale qui appartenait à Quraysh. Ensuite vint la première expédition de Badr. C'est-à-dire la première expédition de Badr. Comme on va voir, il y en a eu deux. La petite expédition de Badr et la grande expédition de Badr qui est la grande bataille de Badr. Et que la petite expédition de Badr, on l'appelle également Safawan. Et cela eut lieu durant le mois de Jumada al-Akhira. Ou al-Akhira. Durant Jumada al-Akhira. Et ceci car un homme qui s'appelait Kurz ibn Jabir al-Fihri s'est attaqué au troupeau du prophète au troupeau de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à sa recherche jusqu'à atteindre une vallée qui s'appelait Safawan. Donc c'est pour ça qu'on appelle donc Al-Badr également Safawan. Et cette vallée était proche de Badr. Kurz ibn Jabir a réussi à s'échapper et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré par la suite à Médine. Donc ici c'est la première expédition de Badr. Comme on va voir, il y en a une deuxième. Après cela, il y a eu le changement de la Qibla. Les savants sont unanimes pour dire, quant au fait que le changement de la Qibla s'est produit lors de la deuxième année de l'Hégire, c'est-à-dire la Qibla de Jérusalem vers la Kaaba, avant la grande bataille de Badr. Donc cela s'est produit avant la grande bataille de Badr. Mais ils ont divergé en ce qui concerne le mois. Il n'y a pas de divergence concernant le fait que, la Qibla ait été changée durant la deuxième année de l'Hégire. Mais le mois durant lequel elle a été changée, il y a un khilaf, il y a une divergence entre les ulama. Certains ont dit Sha'ban, que cela s'est produit à Sha'ban. D'autres ont dit que cela s'est produit à donc le mois de Jumada al-Akhira. Et d'autres ont dit que cela s'est produit mi-Rajab, c'est-à-dire au milieu, à la moitié de Rajab. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Et c'est l'avis de l'auteur du livre aussi. Ibn Hajar, rahimahullah, a dit le changement, c'est-à-dire de la Qibla, a eu lieu à la moitié du mois de Rajab de la deuxième année, selon ce qui a été rapporté de manière authentique. Et la majorité des savants sont catégoriques à ce sujet. Et Al-Hakim le rapporte d'après Ibn Abbas avec une chaîne authentique. Donc la majorité des savants disent que le changement de Qibla eut lieu durant la moitié du mois de Rajab, donc la deuxième année de l'Hégire. Après cela, l'auteur mentionne, dit, après Dhil Ushayr, ô mes frères, la législation du mois de jeûne en Sha'ban. Après, donc, c'est-à-dire que là, la première expédition de Badr eut lieu 10 jours après l'expédition de Dhul Ushayr, qu'on appelle aussi Dhul Ushayra ou Dhul Ushayra. Et Dhul Ushayra a eu lieu donc 10 jours avant l'expédition de Badr. Ici donc, ce qu'on va mentionner ici, ça s'est produit avant l'expédition de Badr et non après. Et le prophète lui-même y a participé durant le mois de Jumada al-Oul jusqu'à arriver à cet endroit. Et cet endroit donc, Dhul Ushayr, c'est un endroit qui est au centre de Yanbu', comme on a dit, Yanbu' qui se situe à 220 km de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté le restant du mois et quelques jours de Jumada al-Akhira, dans lequel il a fait un pacte avec les Bani Mudlij. Ensuite, il retourna à Médine sans rencontrer d'opposition, donc sans qu'il n'y ait de problème. Et durant le mois de Sha'ban, de la deuxième année de l'Hégire, c'est-à-dire un mois après que la Qibla ait été changée, le jeûne du mois de Ramadan a été légiféré. C'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan a été légiféré quand ? durant le mois de Sha'aban de la deuxième année de l'Hégire. Le mois de Sha'aban de la deuxième année de l'Hégire. Après cela, il y a eu la grande bataille de Badr. La grande bataille de Badr. L'auteur dit, la grande bataille qui à Badr eut lieu durant le mois du jeûne, le 17e. La bataille de Badr a eu lieu le 17e jour du mois de Ramadan. Le 17e jour du mois de Ramadan. Et c'est une bataille qui a eu lieu, c'est la première grande bataille qui a eu lieu entre les musulmans et les mécréants de Quraysh. Et comment ça s'est passé? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait à la base intercepter une caravane de Quraysh qui contenait des biens commerciaux qui venaient du Sham avec la conduite de Abi Sufyan. Et Abu Sufyan demanda aussitôt le secours de Quraysh. Et ils se sont donc préparés à affronter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la caravane a donc réussi à s'échapper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affronté les polythéistes lors d'une bataille appelée Badr. On appelle aussi cela la grande bataille de Badr. Et Allah subhanahu wa ta'ala a comblé donc les musulmans de ses bienfaits en leur donnant une victoire éclatante. Et les mécréants de Quraysh sont donc rentrés chez eux en tournant le dos, en étant humiliés et en tournant le dos aux croyants. Les savants disent que les musulmans ont tué une partie des mécréants durant cette bataille et ont capturé une autre partie. 70 personnes ont été tuées et 70 personnes ont été capturées. Parmi ceux qui ont été tués durant cette bataille, c'était de nombreux chefs dirigeants et nobles parmi les mécréants de Quraysh. Et la nuit qui a précédé la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé à ses compagnons et il leur a indiqué où ces mécréants allaient mourir de manière exacte, comme cela a été rapporté de manière authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Un tel va tomber ici, un tel va tomber ici. » Et ils sont tous morts dans l'endroit précis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait indiqué. Les savants disent aussi que les musulmans ont emporté un immense butin durant cette bataille. Et ce jour-là fut nommé le jour du discernement, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran. Car Allah subhanahu wa ta'ala discerna entre le vrai et le faux. Il éleva les musulmans et rabaissa les mécréants. Et ceci a suscité le respect, la puissance et la peur dans les cœurs des ennemis et des opposants. Après la bataille de Badr, la grande bataille de Badr, il y a eu donc la prescription de la zakat al-fitr. La prescription de la zakat al-fitr. Ici, on est encore dans la deuxième année de l'Hégire. On n'est toujours pas dans la troisième année. L'auteur dit « Et fut prescrite durant lui la zakat al-fitr 10 jours après Badr. » 10 jours après la bataille de Badr, qui a eu lieu quand ? Le 17e jour de Ramadan. 10 jours après, la zakat al-fitr fut prescrite. Il fait froid ou là ? Et comme on sait, la zakat al-fitr, c'est la zakat qui est donnée donc à la fin du Ramadan, qui consiste à sortir 3 kg de nourriture, et cela concerne le jeune, le vieux, l'homme, la femme, donc l'homme, la femme, libre ou non. Après cela vient la prescription de la zakat al-mal, l'aumône obligatoire. L'auteur dit, et pour la zakat des biens, ils ont divergé, sache. C'est-à-dire que les ulama ont divergé concernant la prescription de la zakat obligatoire. Et Ibn Kathir mentionne que cela s'est produit, qu'il y a un groupe de savants qui a dit que cela s'est produit lors de la deuxième année de l'Hégire. Après la prescription de la zakat, vint la mort de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya, radiyallahu anha. Il dit, et mourut, l'auteur du, dit, a dit, et mourut la fille du bienfaisant prophète, Ruqayya, avant le retour du voyage, l'épouse de Uthman et les noces de la pure. Avant le retour de l'armée, donc qui avait voyagé pour combattre les mécréants de Quraysh à Badr, lorsque la bataille a pris fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 3 jours dans un endroit qui s'appelle Al-Arsa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se rendre à cet endroit lorsqu'il gagnait une bataille contre un peuple. Après être resté sur place, il a pris avec lui les prisonniers et le butin de la bataille de Badr dans une caravane vers Médine. Il a envoyé 2 hommes donc vers Médine pour annoncer aux gens le succès et la victoire. Ces 2 hommes étaient Abdullah ibn Rawaha pour la partie haute de Médine et il y avait Zayd ibn Haritha pour la partie basse de Médine. Il a envoyé donc ses 2 compagnons pour annoncer le succès et la victoire des musulmans contre les mécréants. Et Oussama ibn Zayd a dit « L'information nous arriva alors que nous venions d'aplanir la terre sur Ruqayya, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Et Ruqayya était l'épouse du noble compagnon Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Le 3e calife. Et il faut savoir que Uthman était resté à Médine pour prendre soin de Ruqayya, comme elle était malade. Avec l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui avait ordonné de rester à Médine. Non comme disent les Khawarij parmi Ahl Bid'ah et parmi Rawafid et autres qui disent que Uthman était un lâche. Et qu'il n'a pas osé combattre à la bataille de Badr. Mais c'est plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a ordonné de rester auprès de sa femme car elle était malade. Et ce qui prouve cela, ya ikhwa, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une part du butin de la bataille de Badr. Radiallahu anhu. L'auteur nous dit ensuite, Fatima, avec Ali, doté d'estime, et se convertit à l'Abbas après la capture. Après la bataille de Badr, il y a eu le mariage entre Fatima et Ali, radiyallahu anh. C'est-à-dire, Fatima bint Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et Ali, qui était le fils de l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous avons dit, Fatima, c'était une des plus jeunes filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on avait mentionné une divergence dans cela, qui avait les savants ont divergé entre qui et qui, et quoi ? Umm Kulthum et Fatima. Certains disent que c'était Fatima la plus jeune, et d'autres disent que c'était Umm Kulthum. Et ce qui prouve que ce mariage a eu lieu après la bataille de Badr, c'est le hadith qui est dans Bukhari et Muslim, dans lequel Ali, radiyallahu anhu, a dit « J'avais une chamelle qui faisait partie de ma part du butin du jour de la bataille de Badr. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'avait donné une chamelle du 5e, c'est-à-dire du butin. » Lorsque j'ai voulu épouser Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me suis arrangé pour qu'un orfèvre de Benou Qaynuqa m'accompagne pour que nous rapportions de la citronnelle afin de la vendre aux orfèvres. afin que j'utilise son prix pour mon repas de noces. » Donc ça, c'est la preuve que le mariage s'est produit et a eu lieu après la bataille de Badr. Comme le dit ici Ali radiallahu anhu. Après cela, après le mariage de Ali avec Fatima radiallahu anhuma, il y a eu la conversion de l'Abbas qui était l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait partie de ceux qui ont été capturés durant la bataille de Badr. Néanmoins, les ulama ont divergé quant à sa conversion. Certains ont dit qu'il s'est converti avant la bataille de Badr. Et d'autres ont dit qu'il s'est converti après être capturé. Et ceux qui disent qu'il était déjà converti avant la bataille de Badr et qu'il a été envoyé à Badr par contrainte, ils se basent sur un hadith qui a été rapporté dans Al-Musnad de l'imam Ahmed et autres, dans lequel il dit « Certes, j'étais musulman avant cela, mais ils m'ont contraint. » C'est-à-dire qu'ils m'ont contraint à aller à Badr. Donc il y a un khilaf entre les savants concernant sa conversion. L'auteur dit, on termine par cela, bi'idhnillah, « Et Qaynuqa à leur bataille à la suite et ensuite il sacrifia le jour de la fête du sacrifice. » Il faut savoir que Banu Qaynuqa, c'était une tribu parmi les trois tribus juives de Médine qui vivaient à Médine lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré. Et il faut savoir qu'il y avait trois grandes tribus juives à l'époque, donc à Médine. Il y avait le Banu Qaynuqa, il y avait le Banu Nadir et il y avait le Banu Qurayza. C'était trois tribus qui étaient, trois grandes tribus juives qui étaient à Médine et qui vivaient à Médine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au moment où il a immigré. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conclu un pacte avec eux. Et les Banu Qaynuqa, cette tribu juive, ont été la première tribu à rompre le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus à la suite, donc après la bataille de Badr, à la moitié du mois de Shawwal, jusqu'à l'apparition de la nouvelle lune de Dhul-Qa'da, donc Dhul-Qa'da, donc du mois d'après. Allah a fait rentrer la peur dans leur cœur et ils se sont soumis au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné de les attacher et il a voulu exécuter leurs combattants. Mais il y avait parmi les gens qui manifestaient l'islam à cette époque-là, il y avait Abdullah ibn Ubay qui laissait donc paraître l'islam. Et c'est lui qui a intercédé en faveur donc des juifs de cette tribu-là, Banu Qaynuqa, et tout en insistant, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les exécute pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné qu'ils soient exilés. Et ils ont alors été expulsés de Médine. Après cela, il y a eu donc la législation du sacrifice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié durant le mois de Dhul-Hijjah, le jour béni de la fête du sacrifice de la deuxième année de l'Hégire. Ibn al-Athir a dit, et cette année, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a sacrifié à Médine. Il est sorti avec les gens au lieu de prière et égorgea de sa main deux brebis et il a été dit que c'était une seule brebis. Et c'est comme cela que débuta le rite. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan.